It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Interdire les conférences pour combattre les idées, quelles que soient d'ailleurs les idées, deux personnalités et deux cas opposés. Jean-Luc Mélenchon et la conférence polémique demain à Lille, sur fond de slogans niant l'existence d'Israël. Et puis Éric Zemmour a empêché de se rendre à une conférence à Bruxelles, entravé par un cordon sécuritaire et surtout combattu par le bourgmestre de la ville pour des raisons idéologiques. Nous allons en parler. Direction Menton dans cette émission, colère et incompréhension des habitants alors que des effectifs chargés de contrôler la frontière devraient être réaffectés à la sécurité des Jeux Olympiques. Et puis les tenues des athlètes lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Nos athlètes seront habillés, pardonnez du peu, par Berluti. Les hommes porteront ce sublime smoking dont le col est aux couleurs de la France. Pour les dames, tenue très élégante également. Voilà les athlètes habillés de pied en cap, comme on dirait. Et d'ores et déjà, j'attribue la médaille d'or du géobashing à Elisabeth Lévy sur ce plateau.
Ah oui, même je l'assume positif. Et même je la revendique.
Ah, bah, même sur les tenues.
Ah ouais, franchement, j'aime bien.
Elles sont magnifiques.
Elles ne vous plaisent pas. On peut revoir l'image juste un
instant. Bah, moi, je les trouve. Excusez-moi.
Je suis d'accord avec Elisabeth.
Elles sont horribles. Elles sont magnifiques. Ça ne veut rien dire en soi, vu qu'il n'y a pas d'arbitre du magnifique.
Il y a le bon goût, vous-même.
Eh bien, justement.
C'est pour... Mais vous êtes dans une attitude de rejet complet de tout ce que peut donner les
gens. Il y a quelque chose qui vous mettra d'accord. Oui. C'est Mickaël qui nous présente le journal. Bonjour à vous, cher Mickaël. Je serai à nous dans une ambiance, déjà, vous l'avez vu, sereine.
Bonjour Sonia, bonjour à tous. Et dans l'actualité, cet après-midi, une nouvelle opération lancée hier à Mayotte pour lutter contre la délinquance et l'immigration clandestine. Au total, 1700 gendarmes et policiers seront déployés d'ici fin juin. Reportage cet après-midi au cœur d'une unité inédite en France, créée spécialement pour Mayotte en décembre dernier, la GT Top 976, sa mission, traquer les fauteurs de troubles. Solène Boulan.
Au milieu de la végétation, cette unité spécialisée se fraye un chemin. Chargée de traquer les auteurs de violences à Mayotte, les enquêteurs inspectent plusieurs maisons avant de mettre la main sur leur cible. Un jeune âgé d'une vingtaine d'années, soupçonné d'avoir participé à une nuit de violence fin mars, au cours de laquelle un engin de chantier a été incendié et une dizaine de voitures vandalisées. L'homme est menotté, l'habitation passée au peigne fin.
L'articulation ensuite fouille et sécurisation de l'étage.
Dans la chambre, une femme est découverte cachée sous un lit. Sans papier et en situation irrégulière, elle est interpellée par les forces de l'ordre. Ces hommes font partie du GT Top 976, une unité composée de gendarmes maorais et de métropolitains qui agissent avec les pelotons d'intervention de la garde républicaine.
Sécurisez-moi toutes les petites dépendances autour. Et on maintient un bouclage après en vue d'interdire toute personne de rentrer dans le dispositif.
Environ 40 hommes sont déployés lors de cette opération, au cours de laquelle 5 personnes sont interpellées. Toutes sont embarquées en direction de Mamoudzou, à une heure de route de Bouéni, où elles seront entendues en garde à vue.
À 100 jours des Jeux Olympiques, évacuation du plus grand squat de France dans une entreprise désaffectée du Val-de-Marne. 250 agents ont été mobilisés pour cette opération. Les quelques 300 occupants ont été contraints de quitter les lieux peu après 8 heures ce matin. Écoutez leur colère.
Mais j'avais papier, j'ai du tout. Ma mère, elle travaille. Même nous, ici, je partais à l'école. Mais j'ai rien. C'est comme ça, les squats, là, jusqu'à 2021, jusqu'à 2024.
Ouais, on est toujours en colère parce que donc là, vraiment on est en colère, on n'a pas de logement, on habite comment, là on est très en colère.
C'est très compliqué, ça fait deux ans de travail. Le problème c'est qu'on a de travail et je demande le logement social. J'ai demandé tout ça, mais rien faire.
Et enfin, on termine avec ce nouveau coup dur pour le portefeuille des automobilistes. Les prix des carburants flirtent à nouveau avec les 2 euros, comptez en moyenne 1,94 € le litre de sans-plomb 95, 2 euros pour le 98, vous le voyez, et puis 1,80 € pour le gazole. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à midi sur CNews. Place au débat à présent en compagnie de vos invités.
Merci beaucoup, Mickaël. Débat largement entamé avec ce sujet sensible, la tenue des athlètes des Jeux Olympiques dont nous allons parler. Parfois, ça s'embrase sur ce plateau pour des raisons importantes quand
Il y a quand même des sujets qui méritent.
Mais on va voir ça tout à l'heure.
Un empaillage national.
Tout à fait. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour, vous allez bien?
Oui.
C'est pas une question, je le constate. Merci d'être là, Kevin Bossuet.
Bonjour.
Merci de votre présence et bonjour à vous. Olivier Dartigol.
Bonjour.
Philippe Bilger, bonjour.
Bonjour.
Et merci à Thomas Bonnet, notre journaliste politique, de nous accompagner. Thomas, parce que nous avons beaucoup de sujets qui ont trait à la politique et plus largement d'ailleurs, à la démocratie. C'est pas un peu pompeux, c'est la réalité. C'est une vraie question et je sais que vous n'avez pas forcément le même avis sur cette question. Faut-il interdire les conférences quand on n'est pas d'accord avec les idées? Comment bien combattre des idées quelles qu'elles soient en interdisant ou au contraire en menant pied à pied une bataille? Ça vaut pour Jean-Luc Mélenchon et ça vaut pour Éric Zemmour. Éric Zemmour, justement, qu'est-ce que ça dit de la démocratie et surtout de ce qui se passe en Belgique? Est-ce que ça préfigure de ce qui pourrait se passer en France? En quelques mots, Éric Zemmour devait tenir une conférence à Bruxelles avec Nigel Farage, figure du Brexit, et Viktor Orban, le bourgmestre de la commune de Saint-Josse proche. Je le dis, mais c'est vraiment le cas des loups gris turcs, et on expliquera ce que c'est dans quelques instants, a invoqué des raisons de sécurité, vous le voyez sur l'image, cordon sécuritaire impressionnant en réalité, parce qu'il devrait quand même avoir, j'allais dire, le courage de dire qu'il s'oppose idéologiquement à Éric Zemmour, pour ne pas que cette conférence sur le conservatisme national se tienne. Écoutons le leader du parti Reconquête et on réagit juste après.
Belgique était jadis un pays libre où on accueillait Victor Hugo en exil. Je vois qu'aujourd'hui c'est un pays qui est entre la charia et la dictature. C'est un triste destin pour ce beau pays. Voilà. Je maintiens que moi je suis là pour défendre l'Europe, la liberté de l'Europe et l'identité de l'Europe.
Même les opposants les plus farouches à Éric Zemmour, ne sont pas d'accord avec une telle attitude.
Évidemment. Enfin, moi, la veille, d'ailleurs, je m'étais insurgé dans ma chronique sur Sud Radio contre ceux qui demandaient l'interdiction de Jean-Luc Mélenchon. Mais pour aller très vite, la liberté d'expression est un des droits les plus précieux de l'homme, dit la Déclaration des droits de l'homme, article 11, si je ne m'abuse. C'est donc un droit particulier, il est au-dessus des autres. Deux, elle ne vaut que si on en réserve le bénéfice à ceux avec qui on n'est pas d'accord, aux idées qu'on déteste le plus. Voilà pourquoi je défends le droit de Jean-Luc Mélenchon de dire des horreurs. Après, faut discuter sur les limites. Et trois, politiquement, l'interdit, ça ne sert jamais à rien. On va pas appliquer maintenant aux uns et aux autres la jurisprudence stupide. Si vous voulez, du Front National.
Alors, je vais vous faire réagir. On va confirmer, mais je crois que savoir que cette réunion va finalement se tenir sous certaines conditions de sécurité, qui, semble-t-il, sont remplies maintenant. Donc voilà, elle a été entravée, mais finalement, elle va se tenir. Thomas Bonnet, dans quel contexte tout ça se déroule-t-il ?
Non, mais ce qui est intéressant, et vous l'avez souligné, c'est que les raisons invoquées par le bourgmestre sont des raisons d'ordre sécuritaire, alors même qu'on comprend très bien qu'il y a en vérité une raison idéologique à tout ça. D'ailleurs, il le poste lui-même, il dit « l'extrême droite n'a pas sa place dans cette commune », c'est bien donc qu'il y a des raisons idéologiques qui l'ont poussé. Finalement, c'est totalement contre-productif, c'est finalement la démonstration parfaite de ce que va dire, et sans doute dire, Éric Zemmour et les autres participants à cette réunion. Et juste un mot sur ce bourgmestre, vous aviez parlé de ses liens avec les loups gris, il avait été exclu du Parti Socialiste Belge justement parce qu'il avait reçu à l'époque des membres, des maires nationalistes turcs. À l'époque, visiblement, l'extrême droite, comme il dit, ne le gênait pas tant que ça.
Bien sûr.
Quelle est la meilleure arme pour combattre des idées, quelles que soient ces idées, justement, que pied à pied, de combattre, d'expliquer, de convaincre, etc. C'est vraiment une défaite de la démocratie.
Depuis des années, l'argument d'immoral ou le no passaran est un échec complet. Il faudrait que ce bourgmestre puisse se mettre à la page et voir que les deux dernières des trois dernières décennies sur ce thème-là ont été totalement inefficaces. Je suis d'accord avec Elisabeth Lévy. À partir du moment où une organisation n'est pas interdite, où elle participe au débat public, au pluralisme, à la démocratie réelle, chacun peut donc réserver une salle et s'exprimer. La bataille idéologique doit se mener, j'ai envie de dire, directement, et chacun peut s'exprimer. Mais ce qui est vrai pour Zemmour en Belgique doit être vrai pour Mélenchon à Lille. Sinon, il y a une distorsion dans la réponse qui n'est pas acceptable.
Sauf si, à un moment, il y a des propos un aspect voilà.
qui amène à une décision.
C'est-à-dire
à une
négation, propos oui, génocide, etc.
Mais nous sommes
etc.
armés juridiquement pour y faire face.
Et surtout, il ne faut pas les présumer. Sonia, comme vous l'avez évoqué, à la fois Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, on ne pouvait pas rêver de meilleurs exemples pour montrer ce que la liberté d'expression dans sa plénitude exige, favoriser évidemment la réunion d'Éric Zemmour. Il faut saluer la réaction très nette du Premier ministre belge qui a coupé net l'argumentation, la mauvaise foi du bourgmestre et d'autre part et Jean-Luc Mélenchon qui doit avoir le droit de manifester à partir du moment où il n'y a pas des choses transgressives par rapport à la loi.
C'est intéressant parce que qui vient de donner le feu vert pour cette réunion, cette conférence sur le conservatisme national ? C'est le Conseil d'État belge. Le Conseil d'État belge, c'est vraiment la plus haute juridiction qui connaît, c'est la plus haute juridiction administrative du pays qui a décidé, je cite, de suspendre cet arrêté émanant du bourgmestre pour l'interdiction de cette conférence, quand même sur des motifs sécuritaire.
Bien sûr. Non, mais on se moque évidemment du monde. Je pense qu'il faut remettre les choses dans son contexte. Ça a lieu où, ça, cette interdiction ? À Bruxelles, notamment par un bourgmestre. Il faut savoir ce qu'est Bruxelles aujourd'hui. 61% de la population bruxelloise est d'origine extra-européenne. 40% des Belges de Bruxelles sont d'origine étrangère. Et dans la capitale, il n'y a plus que 23% de Belges d'origine belge. Et ces chiffres, je les sors d'où ? De Stade Belge, qui est l'Office national des statistiques. Donc il y a une offensive communautariste, il y a véritablement une forme de grand remplacement. Je n'aime pas le terme, en tout cas ça valide le propos évidemment d'Éric Zemmour. Et à Bruxelles, on ne parle plus d'assimilation, on ne parle plus d'intégration, on parle d'inclusion. Donc ça se fait dans ce contexte, avec une montée notamment de l'islamisme et de l'islamo-gauchisme. Et c'est pour ça que ça en dit long, ce qui est en train de devenir cette ville.
Et attention, parce que ça peut préfigurer, vraiment, je ne dis pas attention, c'est pas un chiffon rouge, c'est qu'est-ce qui se passera demain dans nos autres pays. Par exemple, pour être allé souvent à Bruxelles et faire des conférences sur bien d'autres sujets, j'ai été étonnée du manque de pluralité dans les médias. Il n'y a pas une grande... C'est vrai ?
C'est-à-dire, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est en Belgique, on a l'impression que chez nous, la radio publique est une sorte d'une sagesse totale par rapport...
Tout le monde dit la même chose, c'est-à-dire qu'ils sont étonnés qu'il n'y ait pas une pluralité de lignes, quelles qu'elles soient, dans le paysage. Donc quand même,
m'étonne d'ailleurs beaucoup que le Parti Socialiste, si vous voulez, belge, qui a été d'une complaisance avec l'islamisme. Mais la gauche belge, si vous voulez, vraiment, c'est un cran derrière nous, ce qui se passe en Belgique. Mais alors, moi, ce que je trouve intéressant, parce que on a eu aussi beaucoup de discussions sur les imbéciles gauchistes là qui veulent interdire des conférences dans les universités. Oui, quand on va s'imposer à une pièce de théâtre, on est un imbécile, je suis désolée, et je ne retirerai pas ce mot. Donc, ou veulent empêcher X, Y ou Z de s'exprimer, si vous voulez, on en a souvent parlé. Ce qui est intéressant, c'est de poser la question de la limite. Elle est posée par la question de Lille, parce que sur l'affiche de Lille, on voit la carte de libérer la Palestine de la mer au Jourdain. Je vais vous dire, Olivier, pour moi, c'est une idée que j'abomine. Je préfère cette idée qu'Israël n'a pas de légitimité. C'est une idée que je combattrai violemment par l'argumentation dure, je l'espère. Mais je préfère qu'elle ait le droit de s'exprimer, si vous voulez. Alors, non, mais on est à la limite. Vous comprenez bien que souhaiter la destruction d'un autre pays, ça a des conséquences, si vous voulez, graves. Mais je pense qu'il faut le laisser.
C'est vrai que ce logo de la mer au Jourdain est donc le message destruction d'Israël. Oui. Le fait de ne pas reconnaître l'existence d'Israël. Mais je préfère quand bien même cette idée est horrible et insupportable, qu'elle s'exprime dans un amphi, ce qui est une manière aussi de faire vivre notre démocratie, plutôt... Ah oui, mais là, il faut aller au bout.
Mais moi, je suis d'accord
plutôt
avec vous.
Plutôt que de verser dans quelque chose qui pourrait aller vers après de la guerre civile.
Qu'est-ce que ça dit quand même ? Qu'est-ce que ça dit de nos universités ? Est-ce que le savoir et la connaissance ont encore leur place quand on tient ce genre de...
Je préfère que ça s'exprime ainsi plutôt que ça s'exprime d'une autre manière.
Attention quand même aux dérives. Pourquoi on a adopté en France
la loi Guizot ? Il y en a dans notre sens aussi des dérives.
Pourquoi on a adopté la loi Guizot ? C'est pour éviter que des propos négationnistes qui remettent par exemple en cause la Shoah puissent être prononcés comme ça dans un amphithéâtre.
Là, tu peux
évidemment vive le débat dîner, mais attention aussi à ce que certains propos ne remettent pas en cause notre histoire, ne remettent pas en cause la dignité humaine, et dans ce cas-là, ça doit être interdit.
Mais vous pouvez pas protéger la vérité par la loi. La loi Guizot, elle n'a pas empêché ni le négationnisme, ni l'antisémitisme qui était caché derrière, qui ont eu de nouveau une autre heure de gloire sous la forme du diodonisme, puis une autre sous la forme du Mélenchonneau, je ne sais trop quoi. Ça n'empêche rien, si vous voulez. C'est l'idée qu'on va lutter avec ces lois qui n'ont fait en plus qu'exacerber la concurrence des victimes. Maintenant, tout le monde veut sa loi Guizot. Si vous voulez, c'est si on doit protéger une vérité historique par la loi, c'est qu'elle a déjà perdu. Voilà. Pourquoi vous êtes pour Philippe?
Non, mais vous avez totalement raison. Voilà. Mais au moins la loi Guizot aussi. Délétère qu'elle soit, elle existe.
C'est ça.
On a une limite, comme le dit Kevin.
C'est important.
Et elle a permis des condamnations.
Voilà. Bien sûr.
Oui, mais la bataille, on est tous d'accord, est beaucoup plus profonde et évidemment et essentielle aussi. Thomas Bonnet, justement, pour cette conférence demain à Lille, il y a eu des demandes d'interdiction, mais elle va se tenir.
Oui, elle va se tenir. Il y a eu des demandes qui sont d'ailleurs qui ont émané à la fois de Xavier Bertrand, le président de la région, mais aussi de députés de Renaissance. On pense à Violette Spilbou. Et en effet, elle va quand même se tenir avec visiblement une vigilance accrue sur les propos qui vont être tenus, sur les réactions qu'elle pourrait susciter au sein de cette université. Si on est assez cynique, on pourrait se dire que c'est plutôt bénéfique de laisser cette conférence se dérouler pour justement pointer les dérives idéologiques de la France insoumise, dont je ferai remarquer, qu'on le voit d'ailleurs à l'image, Rima Hassan est peut-être en vérité la vraie numéro un de cette liste insoumise. Elle est en train d'éclipser totalement Manon Aubry. Et d'ailleurs, vous remarquerez aussi que le seul sujet qui est abordé, c'est celui de la question palestinienne.
Évidemment, c'est devenu le thème essentiel de la campagne. On va parler dans quelques instants d'une visite demain, importante, en tous les cas symbolique. On va voir ce qui sera dit et annoncé. Gabriel Attal, pour ses 100 jours à Matignon, qui sera Viry Châtillon. Vous nous donnerez les détails, Thomas Bonnet, Viry Châtillon, après tout ce qui s'est passé, évidemment, et le drame tragique autour de Chem Sedine. Mais tout d'abord, les titres avec vous, cher Michael.
À 100 jours des JO, évacuation du plus grand squat de France dans une entreprise désaffectée du Val-de-Marne. 250 agents ont été mobilisés pour cette opération. Les quelques 300 occupants ont quitté les lieux peu après 8 heures ce matin. Et au sujet des Jeux Olympiques, Amélie Oudéa-Castéra assure que le plan central pour la cérémonie d'ouverture reste la Seine. La ministre des Sports précise toutefois que si la menace venait à s'intensifier, le scénario de repli serait à revoir. Et puis un agent de la police nationale blessé hier à Pau après un refus d'obtempérer. Il tentait d'interpeller un homme à scooter qui s'est avéré, selon les premiers éléments, être volé. Le conducteur du deux-roues a percuté violemment le fonctionnaire avant d'être interpellé.
Merci Mickaël et à tout à l'heure. À l'occasion de ses 100 premiers jours à Matignon, le Premier ministre Gabriel Attal veut adresser, dit-il, je lis les choses telles qu'elles sont communiquées, un message d'autorité. Il se rendra donc dans la commune d'Essonne à Viry-Châtillon où un adolescent, Chem Sedine, est mort récemment après avoir été passé à tabac près de son collège. On le rappelle, en tout cas, c'est la piste essentielle pour une affaire, une question de réputation autour d'une jeune femme, Thomas Bonnet. Alors, il est très attendu. D'abord, le sujet de l'école, la laïcité et puis l'ultra-violence des jeunes, c'est le cocktail malheureusement explosif.
Et on est au carrefour de beaucoup de sujets qui font l'actualité et qui inquiètent particulièrement les Français. Alors ce qu'on nous dit du côté de Matignon, c'est qu'à l'occasion de ces 100 jours, Gabriel Attal ne veut pas passer du temps à faire son bilan, il veut plutôt être dans l'action. Et c'est pour cette raison que demain, il y a ce déplacement à Viry-Châtillon. Ça, c'est pour la com. On va s'attendre à des mesures qui vont être annoncées demain lors d'un discours assez formel du Premier ministre. Des mesures dont on nous dit aussi, sans nous en dire le contenu, qu'elles pourront être appliquées très vite, peut-être même dès la semaine prochaine. Il a une réunion cet après-midi, Gabriel Attal, avec les ministres régaliens de son gouvernement. Certains d'entre eux, d'ailleurs, accompagneront demain Gabriel Attal à Viry-Châtillon. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que ce n'est pas un déplacement fait divers. Il n'est pas là pour aller à la rencontre des familles de victimes, pas là pour rassurer, mettre de la police, mais vraiment pour annoncer des choses sur le fond. Maintenant, on va attendre de voir.
Il faut que ce soit un déplacement fait de société. Et je vous rappelle quand même quand même que la ministre de l'Éducation nationale, après ce qui s'est passé, aussi bien pour Samara, aussi bien pour Shamsedine, et puis de manière générale, a annoncé aussi des brigades, c'est-à-dire des sortes de brigades qui vont se déployer. Vous voyez, par rapport à la profondeur, c'est vertigineux le problème auquel on fait face, et ce sont ces annonces. Donc il est très attendu, Gabriel Attal, demain. Je vous lis quand même, parce que ça vaut son pesant, comme on dit, de ce que vous savez. La porte-parole du gouvernement, l'autorité sur ce sujet doit s'appliquer partout pour tous. Merci, au revoir.
Ah bah oui.
Heureusement, c'est un moment important pour Gabriel Attal et par rapport à l'attalisme, dont je sais que Philippe a été un fervent défenseur dès la nomination. Oh là là, oui, il y a eu un moment Attal.
Il n'a pas duré longtemps pour.
Oui, mais il va falloir regarder en quoi l'hypercommunication peut continuer à donner l'illusion de l'action. Parce que l'abaya, c'était.
Vous êtes sévère avec lui.
Non, mais je veux dire quelque chose, c'est que l'abaya, c'était une annonce, quelque chose d'effectif dès le lendemain. Ce que je veux simplement dire, c'est que ça n'est pas toujours possible. Oui. Et qu'il va falloir donc voir sur ce qu'il va annoncer, ce qui peut véritablement être exécuté dès lundi, selon les annonces qui commencent à être faites par Matignon. Et je pense que l'attalisme n'est que le prolongement aujourd'hui, Olivier, dans sa forme finale du macronisme.
Vous avez raison,
c'est-à-dire que le verbe est haut, mais les résultats sont, que ce soit sur le plan économique, sur le plan international...
Non mais là, Abiré Châtillon, voilà. Regardez, prenez les termes du communiqué. Il y a une erreur, c'est vicié dès le départ. La question n'est pas la laïcité. Pour Shamsedine, c'est pas la laïcité.
Non, la question, c'est quand même une norme qui est en train de s'imposer.
Ça s'appelle quoi ?
La question, c'est une norme islamique qui est en train de s'imposer dans une grande partie de la jeunesse, c'est tout.
Laïcité, c'est presque hors sujet par rapport à ce qui s'est passé.
Non, mais écoutez, on ne mènera pas la bonne bataille. Mais pardon, Philippe, pardon.
Monsieur le professeur.
Attendons de voir ce que va proposer Gabriel Attal. On est en train de commenter des mesures qu'on ne connaît pas encore. Alors, je ne suis pas d'accord avec Olivier. Je pense que est un pragmatique. Moi, je l'ai vu à la tête de l'Éducation nationale sur le harcèlement scolaire ou encore sur la abaya. Il y a eu des mesures concrètes qui ont été appliquées concrètement. Et on peut beaucoup reprocher beaucoup de choses à Gabriel Attal, sauf d'être ferme sur la question de la République et sur la question de la laïcité.
Ce n'est pas le cas sur Samaya.
Je comprends ce qu'essaye de faire Gabriel Attal. Il essaye de capitaliser sur ce qu'il a fait politiquement, mais c'est vrai qu'on attend d'autres mesures, notamment sur la délinquance des mineurs, taper au portefeuille les parents qui ne s'occupent pas de leurs enfants.
Pardon, mais vous attendez des mesures, voire des mesurettes, sur un sujet qui est abyssal de gravité. Ce n'est pas possible en une annonce, en un déplacement, c'est très bien.
Il n'est pas possible. On ne peut pas demander à Gabriel Attal ce qu'il ne peut pas donner. Il ne va pas, au cours d'un déplacement à Viry-Châtillon, aborder les problèmes de fond.
Pourquoi ?
Je pense que c'est l'idée.
Mais au contraire.
Il les abordera.
Écoutez,
peut-être.
Vous savez ce qui manque ?
Je ne voudrais pas qu'on réduise, et je rejoins Kevin, le bilan de Gabriel Attal à l'Éducation nationale à l'abaya. C'est un détail, l'abaya. Il a pu d'autant plus l'emporter sur l'abaya que personne ne discutait.
Il s'agit moins du bilan de Gabriel Attal que de la France. Entre Samara, Shamsedine, etc., il y a quelque chose quand même
Il y a un problème.
Qui vous interpelle. Ce sont des Français d'origine musulmane. Il y a là l'occasion pour le gouvernement d'emmener tous les élèves, quelle que soit leur confession, leur origine, vers quelque chose de commun.
Il va le faire à partir de ce qu'il est et de ce qu'on lui permet.
Je suis en désaccord, c'est très rapide, avec le bilan de Gabriel Attal à l'éducation, que vous survendez. Pourquoi ? Il y a eu le moment abaya. Mais après, sur les chocs de savoir, à partir du moment, et les enseignants le disent, où il n'y a pas un supplément dans les dotations horaires des établissements, pour rendre effectif cette mesure, ça ne fonctionne pas. Les dernières affaires nous ont montré que sur le harcèlement, on a accepté ce communiqué du rectorat, disant que, essayons de mettre la poussière sous le tapis.
Donc,
en matière de harcèlement, Kevin, tu dis que les choses sont réglées, elles ne sont absolument pas réglées.
Là, on ne parle pas de harcèlement, on parle d'hyperviolence.
Là, je voudrais quand même, excusez-moi, parce qu'on est en train de partir, on va refaire toute l'histoire, le harcèlement, etc. Il se passe autre chose. Et ce qu'on attend du gouvernement, c'est de poser un diagnostic clair, de regarder les choses en face. Que se passe-t-il? Nous sommes en train de perdre la bataille, disons, pour l'islam, à l'intérieur de l'islam. Elle se joue, vous l'avez dit, les victimes de ces affaires étaient musulmanes, mais pas pro-françaises.
Oui.
Voilà.
Oui.
Et vous avez de l'autre côté, on dit intégré contre intégriste, vous appelez ça comme vous voulez. Il y a des gens qui veulent être français et tous les sondages le montrent. Une maintenant petite majorité de la jeunesse c'est qui est de l'autre côté, qui pense que les autres sont les Français, les couffards, les mangeurs de cochons. Donc, il y a une bataille pour l'imposition d'une norme. C'est ce que vous avez dit, Sonia, une bataille culturelle. Moi, je n'attends pas de Gabriel Attal qui nous parle de violence, de harcèlement, de ceci, de cela, qu'il nous parle de ce séparatisme-là.
Eh bien, attendons de voir ce qu'il dira demain. Nous le suivrons en direct. Pardonnez-moi, Philippe, on doit marquer la pause. Donc, essayez de suivre ce que je dis, ce sera plus simple. Et donc, on le saura demain. Vérification, quelle heure, Thomas Bonnet?
À partir de 10h, 11h, ce sera pour vous, Sonia, les annonces
respectives. Et voilà, comme à chaque fois. Une courte pause et on se retrouve à tout de suite.
Intelligent par ailleurs, Mok.
Merci d'être avec nous. La suite du direct. Dans quelques instants, nous parlerons d'un sujet extrêmement sensible qui va beaucoup faire réagir Philippe Bilger également, les tenues des athlètes.
Magnifique.
Pour une fois, je n'ai pas à critiquer.
Vous êtes pas vous êtes injuste avec vous-même. Vous êtes souvent très nuancé.
Je vais plus vers le négatif dans le domaine des apparences.
Mais ça, c'est depuis que vous nous fréquentez.
Ah non, non,
on en parle.
Vous conduisez à l'équilibre.
Fallait pas venir.
Les titres avec vous, Mickaël.
5 blessés, dont un grave, dans une fusillade à Nîmes. Les faits se sont déroulés hier soir vers 20h au chemin bas d'Avignon, un quartier. En proie au trafic de drogue, les 3 tireurs ont pris la fuite et sont toujours activement recherchés. Au moins 18 personnes tuées à Oman dans des inondations, dont 9 écoliers. Des inondations meurtrières ont frappé les pays du Golfe. À Dubaï, les rues, les centres commerciaux et l'aéroport sont sous l'eau. Et puis 250 000 nouveaux billets mis en vente ce matin pour les Jeux Olympiques, dont la moitié à moins de 100 euros. Tous les sports sont concernés, précisent les organisateurs, mais certains sont en nombre très limité.
Merci, cher Mickaël. On parlera, comme je l'ai dit, des tenues des athlètes, mais pour l'heure, est-ce que vous connaissez la commémorite aiguë? Attention, ça s'attrape vite. Généralement, ça concerne des présidents de la République.
Ah oui.
Et surtout, qui plus est, quand ils sont en difficulté. Alors là, ça se propage très vite.
Et ça n'arrête pas. Hein.
C'est incroyable.
Ah là.
Un marathonien.
Mais en même temps, si je puis dire, en même temps, ouais. Imaginons un instant, vous êtes président de la République, Philippe Bilger.
Le rêve.
Vous êtes, pour nous aussi, en difficulté dans les sondages. Et quoi de mieux que de parler de ce qui nous ressemble encore un peu, qui fait illusion, parfois, la grande histoire. Ben oui.
Oui, mais je la choisirais.
Pour passer des messages.
Je la choisirais mieux. Et puis ensuite, je ne mettrai pas des choses dérisoires au même niveau, quoi. On sent qu'il a des pulsions. Pour nous introduire le passé en permanence, parce que le présent est désolant et qu'il ne croit plus au futur de la France. Ça devient grotesque, pour ne pas parler de l'enflure des discours, mais je sais qu'Olivier n'est pas d'accord sur ce point.
Sur le Vercors, ce n'est pas contestable.
On peut l'écouter, vous réagissez après, parce qu'on va faire attention, c'est toujours la même. Et bon, vous allez me dire heureusement qu'il a la même tonalité, mais c'est toujours le même sous-texte, exactement. Les grands mots, qui sont adaptés quand même au contexte, aux situations auxquelles il rend hommage, c'est-à-dire là, le maquis, évidemment, dans le Vercors. Mais... D'ailleurs, je crois que c'est la première fois qu'il y a un hommage pour
De Gaulle
maquis.
Y est allé, mais de manière
Il y a eu les glières quand même.
Non, mais bien sûr. Mais là, le maquis du Vercors,
Sarkozy
il me semble que ça fait très longtemps.
Il avait mâché
du niveau mémorial. Le maquis du Vercors est un peu passé à la trappe, contrairement à Hollande.
Bon, alors, ce qui vient d'y être, écoutons-le. Écoutez surtout le sous-texte écrit en dessous.
Serviteur du régime de Pétain et Laval, soldats sous le commandement de Joseph Darnan, ces Français trahissaient la France par volonté de vengeance, par pulsion de pénitence. Français prêts à tuer d'autres Français, et avec eux cette certaine idée de la France. Français rongés par l'esprit de défaite, inséparable de la haine de la République. Car ce n'était pas seulement un temps où les Français ne s'aimaient pas. C'était aussi un temps où des Français n'aimaient pas la France. Oui, Cela n'aimait pas la France des Lumières, celle de 1789 et de l'an 2. Il n'aimait pas Voltaire, Rousseau, Hugo et Zola. Il n'aimait pas De Gaulle et l'esprit de résistance. Non, il n'aimait pas la France. Alors, il ne pouvait aimer la République du Vercors. Souvenons-nous aussi de ces Français, de leurs choix et de leurs fautes.
Bon, on aura compris, les Français rongés par les
hommes. Mais attention, contemporaine, ce qu'ils disent
en pleine campagne des Européennes.
Juste,
non, c'est oui, mais pardon.
Factuellement sur le
mais
passé.
Vous êtes pas naïf. Mais est-ce qu'on a le droit de dire ou est-ce que c'est vraiment irrespectueux de dire que déjà ce ton un peu comme est un peu.
Grandiloquent.
Grandiloquent. Je veux dire, il a eu des bons cours de théâtre, pourtant certainement, donc je suis un peu étonnée par ce phrasé j'arrive pas à y croire. Voilà. Mais c'est surtout pas ça qui est, parce que on peut pas, enlever les choses du sous-texte. Le sous-texte, c'est que nous sommes confrontés en permanence à des petits, il dit pas que c'est Hitler, il dit des petits sous-produits, disons, que lui, évidemment, il y a les collabos, les résistants, donc vous l'avez compris, il conçoit pas la mémoire pour nous réunir, pour dire ce qui nous rassemble, comme vous l'avez dit, faire du commun, vous le parliez des élèves, c'est plutôt pour dire, regardez, les méchants, ils sont là, et c'est pour exclure, c'est pas pour réunir, donc bon, ça veut répéter.
Je trouve que vraiment sur ça, c'est...
Rappelez-vous Oradour. Ouais. Rappelez-vous son passage, quand il est allé à Oradour et au mémorial de la Shoah, une semaine avant l'élection.
Ah non, mais c'est de l'électoralisme bon teint, bon genre. Moi, j'ai beaucoup de respect pour notre histoire. C'est ma profession. Évidemment, la milice, les collaborationnistes, ceux qui considéraient les résistants comme des terroristes, évidemment qu'il faut le mettre en avant. Mais ça arrive bizarrement avant une élection européenne, avec un ton...
Alors,
vous voyez bien que plus le Rassemblement national est haut, plus on essaie de mobiliser les options de l'histoire. C'est bon,
Thomas Bonnet.
Le 6 juin, on ne peut pas le faire le 10. Préservez-vous du 6 juin 44, parce qu'on va commémorer le 6 juin 44 quelques jours seulement avant l'élection.
Oui, parce que
les dates, pour le coup, sont gravées dans le marbre de l'histoire.
Il rend hommage à un passé intrinsèquement glorieux, mais d'abord, sur le plan de la forme, je rejoins totalement Elisabeth. Non seulement il y a l'enflure du fond, mais on peut à la limite discuter mon point de vue, mais il y a la voix qui fait un sort à cette enflure en permanence. Et deuxième élément, il est clair qu'il y a quelque chose qui nous est adressé directement dans ce discours. Regardez comme je suis quelqu'un de remarquablement humaniste, puisque je suis capable à la fois de décrire cette gloire et de stigmatiser ceux qui ne partagent pas mon point de vue. Et puis, alors, bien sûr, c'est adressé à tous ceux qui sont qualifiés de mauvais Français.
On a remarqué que durant cette campagne, et pas seulement durant cette campagne, les comparaisons historiques sont légion. Il y a eu le malheureux, parce que quand Valérie Ayé a comparé Marine Le Pen à Daladier, on a envie de lui dire, mais est-ce que vous connaissez l'histoire de Daladier ? Hier, mais Doriot, c'est Georges Bensoussan qui a comparé Jean-Luc Mélenchon à Doriot. Ça, c'est l'historien qui parle et il maintient. Il dit que c'est une matrice populiste qu'il compare entre Jean-Luc Mélenchon et le collaborationniste Doriot. Me demande quel impact ont ces comparaisons.
Mais pas les historiens de comparer.
Mais par rapport à monsieur, moi, l'interview était très intéressante, mais le fait qu'on puisse dire et analyser que l'islamisme est un nouveau fascisme, ça, c'est réel. Mais de là à comparer Jean-Luc Mélenchon et ses positionnements à Doriot, là, je pense que ça n'est pas acceptable, comme j'ai trouvé que la comparaison à Daladier ne l'était pas davantage.
Sauf si, comme vient de le préciser Sonia, il voulait dire qu'il appartient à une lignée populiste. Voilà. Alors là, c'est beaucoup plus juste.
À une mécanique.
Ce qu'on a cru comprendre hier soir.
Ouais. Mais ce n'est pas la même chose quand un historien. Vous pouvez pas, quand un historien se livre à une comparaison. Ça ne veut pas dire que Doriot et Mélenchon, c'est pareil. Ce serait un élément de réflexion intéressante de voir qu'est-ce qui, dans le parcours de Jean-Luc Mélenchon, a déjà en partie existé si on était dans un cours d'histoire. C'est pour ça que je pense que quand on est dans les médias ou quand on est en plus encore un politique, il faut faire attention. Parce que quand les politiques font ça, ce n'est pas comme Georges Bensoussan pour produire de la réflexion. Si vous voulez, c'est pour lancer des anathèmes, très souvent. Si vous voulez, c'est-à-dire que la comparaison, ça fait, c'est le cœur du travail historique. Vous pouvez pas. Il y a toujours des éléments qui sont comparables. Et, par exemple, quand on fait nazisme et communisme, c'est pas pareil. Il n'empêche qu'il y a des éléments de comparaison clairs.
On est d'autant plus exigeant quand il s'agit d'un historien et qu'on peut refuser l'anachronisme. En comparant des périodes qui ne sont pas comparables.
Bien sûr.
Tout est comparable.
Je suis d'accord avec Elisabeth Lévy. L'utilisation de l'histoire, le fait de se réfugier dans le passé pour ne pas parler du présent. Quand M. Macron sort un slogan, je le cite, le temps où des Français n'aimaient pas la France. Mmh. Mais le temps où des Français n'aiment pas la France est aussi actuel. J'aimerais aussi qu'ils se préoccupent de cette question. Quand vous allez dans certains quartiers, on vous dit je n'aime pas la France, nique la France, etc. Il y a peut-être des causes profondes, il y a peut-être des choses à dire, aussi bien aussi dans l'enseignement de l'histoire. Tout à l'heure, Sonia, vous disiez, mais quel impact ça a dans l'opinion publique, mais plus grand chose, qui connaît aujourd'hui Jacques Doriot ? Qui a aujourd'hui a ses références historiques ? Plus grand monde, on est dans un monde, finalement, dans une société où il n'y a plus véritablement de références profondes, et j'ai l'impression que Emmanuel Macron parle à un électorat précis, l'électorat âgé qui va voter au cours de ces européennes et qui se mobilise encore dans un antifascisme qui aujourd'hui, à mon avis, est complètement factice.
Thomas Bonnet, c'est vraiment, ça va être un calendrier adapté à toutes ces commémorations à venir.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de dates aussi, c'est vrai, on parle du débarquement au mois de juin, il y aura aussi des commémorations à l'été, à la rentrée aussi, et finalement cette frénésie mémorielle qu'on lit en titre, elle témoigne aussi de l'incapacité d'Emmanuel Macron à agir sur le fond, il n'a pas de majorité à l'Assemblée. Il n'a pas véritablement aujourd'hui les mains libres pour faire des choses pour la France. Donc il se réfugie en quelque sorte aussi dans ses commémorations. Et ça me rappelle une phrase qu'avait prononcée De Gaulle, c'était en 1965. Un président ne devrait pas être cantonné à inaugurer les chrysanthèmes. C'est un peu là ce qu'on observe de la part du chef de l'État qui est un peu coincé dans ses commémorations.
Les Français adorent commémorer, célébrer. On aime ça aussi.
Mais c'est parfois très bien.
Par ailleurs, non, mais il n'y a pas que ça. On ne peut pas dire que Emmanuel Macron inaugure les présents sous la cinquième. Ça n'a pas beaucoup de sens de dire ça. Mais en plus, il y a une année. On est 80 ans après le 44. Voilà. Donc, si vous voulez, là, on va rentrer. Puis l'an prochain, on sera 80 ans après 45. Puis,
on a échappé à la panthéonisation de Marie Scondé. Tout de même, certains le souhaitaient. Alors,
non.
Il progresse tout de même d'une certaine manière.
Écoutez, on aura l'occasion d'en parler. Vous doutez bien que ça va être dans l'actualité et que ça va quand même percuter la campagne des Européennes. Donc, c'est un vrai sujet aussi, puisque c'est le président qui va passer des messages en pleine campagne. Ou pas, tout est possible, nous verrons. Ce qui est certain, c'est que ces athlètes des Jeux Olympiques porteront ces tenues-là.
L'élégance française.
Nos athlètes, je vais le préciser, seront habillés par Berluti. Vous demandez pourquoi ?
Oui, qu'il faisait que des chaussures, mais bon.
Oui.
Bah, il fait chaussures qui sont fabriquées à Turin et prêtes à porter dans la ville de Ferrare. Berluti, qui appartient au groupe.
LVMH.
Alors regardez nos athlètes.
L'un ou l'autre.
Les hommes porteront. Alors moi j'ai dit ce sublime smoking. Regardez le col, un peu écharpe avec les couleurs. Alors attention, ça c'est les paires de baskets. Ce sont des athlètes, ce sont des sportifs, ça vous choque pas ?
Non. Ça pour la cérémonie d'ouverture.
Oui. Non, oui, tout à fait.
Ah non, moi je voudrais des escarpins. Ben quoi ? Elles sont habiles, nos athlètes, elles peuvent marcher sur des talons.
Mais, vous avez raison.
Et pourquoi ces couleurs flashent ?
Sur l'eau, d'ailleurs.
Pourquoi ces couleurs qui flashent comme
je
ça ?
Je voulais, aujourd'hui, faire quelque chose de positif sur les Jeux Olympiques.
Vous montrer que c'est tout de même un moment festif.
Je ne suis pas sûr que ce soit très festif au mois de juillet à Paris.
Avec
ces
comme ça,
ce n'est pas régulière.
Non, mais franchement, vous êtes sérieux ? Vous trouvez ça super élégant ?
Oui, je trouve ça moche. Je les trouve très beaux.
C'est magnifique.
Non, mais moi, je suis en plus sérieuse. Si vous voulez me faire plaisir, ne m'offrez pas cette nouvelle.
La grande question est de savoir si dans ce compte à rebours, on va aller de polémique en polémique. Ou si, comme ça s'est passé pour Londres, à un moment donné, on va quand même avoir un peu le goût, l'enthousiasme et le plaisir des JO à Paris.
Commencer la compétition va se passionner pour des sports. Ou pour des épreuves. Je ne savais même pas que ça pouvait exister comme sport. Là, vous allez regarder et dire « Ah, c'est pas mal !» Et vous allez attendre l'horaire, même à 2h du matin, pour regarder. Vous n'êtes jamais arrivé ?
Si.
sur le curling.
Vous avez un exemple
on a les nerfs.
Vous avez un exemple de discipline amusante.
Oui, le curling, je regarde.
Je peux alors, il n'y aura pas de je suis surpris à y passer des heures.
Il y a pas un test où on a le droit de ne pas en mettre. Est-ce que j'ai le droit de ne pas communier dans cette religion?
Oui.
J'en ai assez. Non, mais je vais vous dire pourquoi.
Religion, les Jeux Olympiques?
Oui, le sport en général et les Jeux Olympiques. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, parce que tout ce qu'on entend, j'en ai assez qu'on nous dise que les valeurs du sport, que les sportifs sont des modèles, parce que ce qu'on voit toute la sainte journée, c'est quand même un peu autre chose. Hein, les valeurs du sport, c'est quand même souvent le séparatisme, les abus sexuels, le fric. Donc, j'en ai assez qu'on présente le... Et si vous voulez, je trouve ça d'ailleurs très curieux que ce soit le seul effort qu'on encourage dans notre société.
Et pas que ça non plus, Elisabeth. Non. C'est aussi des belles valeurs. C'est aller voir
des valeurs, mieux
les gamins après beaucoup à travers le sport.
C'était juste pour infuser un peu de quelque chose d'élégant, de beau, mais j'ai raté.
On n'y est pas arrivé.
Je ne suis pas arrivé.
C'est un échec cuisant.
Du plateau qui est pour tout de même.
Pardonnez-moi.
Une partie du plateau.
Ah mais et quelle partie? Mais complètement. Bon.
Je reste minoritaire.
Les titres avec vous, Mickaël, et puis on reviendra sur l'information, en tous les cas, la conférence d'Éric Zemmour, pas seulement d'Éric Zemmour, Nigel Farage, donc tenant du Brexit, et Viktor Orban,
Premier ministre d'exercice,
à Bruxelles. Mais tout d'abord, les titres.
À son jour des Jeux Olympiques, justement, évacuation du plus grand squat de France dans une entreprise désaffectée du Val-de-Marne. 250 agents ont été mobilisés pour cette opération. Les quelques 300 occupants ont quitté les lieux peu après 8 heures ce matin. L'Union européenne et les États-Unis préparent de nouvelles sanctions contre l'Iran. Les alliés d'Israël ne veulent pas d'une guerre étendue avec Téhéran, mais ne comptent pas non plus laisser l'attaque des 13 et 14 avril sans réponse. Et puis je rêve de gagner la Ligue des Champions avec Paris. Les mots de Kylian Mbappé après l'écrasante victoire du PSG hier face au Barça. L'attaquant star a déclaré sa flamme au club parisien qui affrontera le Borussia Dortmund en demi-finale aller le 30 avril.
Je vois le regard qui s'illumine de Thomas Bonnet et de Philippe Bilger.
Évidemment.
Eh ben oui.
Quelle soirée, nous avons vécu.
J'ai perdu un pari.
Encore ?
J'étais persuadé que le PSG perdrait, donc j'apporte une bouteille de champagne.
Je sais, peut-être je sais à qui. Un présentateur du matin et du soir, d'ailleurs. Non, c'est avec Pascal.
C'est plutôt à Sud Radio.
Ah, d'accord.
Je fais une sorte de trahison et de détournement.
Bon, vous pouvez, tout va bien. Mais on peut faire des paris, si vous les perdez souvent, ça m'arrangerait.
Alors, il a pas perdu. Pas en politique, hein,
très bien. Il a pas perdu
mais en
son.
Sport, Sonia est imbattable.
Il a pas perdu son pari, si je puis dire, puisqu'Éric Zemmour va pouvoir tenir cette conférence avec quand même Nigel. Quand même, je dis parce que. Il faut se rendre compte que l'interdiction de cette conférence empêchait aussi, alors quoi qu'on pense de leurs idées, Nigel Farage qui est le tenant du Brexit, Viktor Orban qui est le Premier ministre polonais, qui vont pouvoir venir. Le thème, c'est sur le nationalisme, le conservatisme, les idées conservatrices à travers l'Europe. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de réactions de soutien, Thomas Bonnet, quand il y a eu entrave à cette conférence? Oui, mis à part, j'allais dire, la droite et la droite
oui,
de la
sûr.
Droite.
Non, ce qui est intéressant, justement, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont offusquées, qu'on censure une réunion publique en dépit des idées qui pourraient être véhiculées dans cette réunion. C'est le simple fait même d'interdire cette réunion qui a suscité un grand nombre de réactions dans une grande partie de l'échiquier politique, un peu comme à Lille d'ailleurs, les menaces de suspension, d'annulation plutôt de la réunion de Jean-Luc Mélenchon ont elles aussi suscité un certain nombre de réactions, pas forcément dans le camp de Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs.
Alors j'ai posé la question ce matin au politologue et au directeur général de la Fondapol, qui est la Fondation pour l'innovation politique, Dominique Régnier. Sur les deux poids, deux mesures, Jean-Luc Mélenchon, certains demandent l'interdiction. Mmh. Et puis quand même sur Jean-Luc Mélenchon, j'insiste sur un point, c'est... dans une université. Est-ce qu'un politique doit tenir conférence dans une université? Je ne sais pas. Moi, ça m'interpelle. Bah, je ne sais pas, ça vous paraît naturel comme lieu
Non, mais Sonia, ce serait normal.
En pleine campagne des Européennes.
Ce serait acceptable si on était sûr. J'ai entendu l'argument hier soir et je le trouve pertinent. Cette même université n'accueillerait pas le camp contraire.
D'accord. Et je pense qu'un homme politique n'a rien à faire dans une université, dans une période électorale. C'est un temple sacré, c'est le champ du savoir, ce n'est pas le champ de la polémique.
Qu'est-ce qui reste de sacré? Je ne sais pas si c'est l'université. Hein.
Mais laissez-moi vivre encore un peu dans l'illusion.
Ça renvoie au discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne. C'était un discours très pro-européen et à l'époque, ça n'avait pas vraiment étonné.
Je ne sais plus qui avait fait un discours en Égypte dans une grande université.
Barack Obama.
Voilà, merci, Barack Obama. Écoutez, les universités, c'est pas comme des écoles ou des lycées. Ça, ce sont des lieux de débat, ce sont des adultes qui vont à l'université. Comme l'a dit Philippe, je pense que ce qui est important, si vous voulez, c'est qu'on ne censure pas les uns pour laisser les autres parler. Mais ce qui est important, c'est aussi que nous ne défendions pas, nous, les uns, qu'on ne s'énerve pas. Quand c'est des gauchistes qui veulent interdire Eschyle ou Sylviane Agacinski, et pas quand c'est les... Moi, je crois qu'il faut laisser le débat le plus
libre possible. D'accord. Mais quand Sciences Po, dans le fameux Amphi Gaza, recevra tout le monde, là, on pourra en parler.
Ah oui. Oui, bien sûr. Je
suis mais le temps que ça arrive... Mais j'entends
pas
ce que vous dites.
Une affaire française et une affaire belge. On n'a pas non plus... absolument la main sur ce qui se passe.
Déjà que je ne sais pas si eux... Bon, écoutons Dominique Régnier.
C'est vraiment quelque chose qui me paraît très choquant. Il faut un très haut niveau de dangerosité pour qu'on puisse la justifier. L'argument de la sécurité, c'est un argument qui est d'une grande perversité parce qu'il est très facile de l'invoquer parce qu'il y a des groupuscules qui sont mobilisables à merci, qui vont rester inertes dans un cas, extrêmement bruyants dans un autre cas, et qui seront le prétexte facile pour une université ou pour une ville empêcher une prise de parole. C'est un déclin des libertés.
Voilà.
Le Claire, problème net, avec Jean-Luc Mélenchon, Sonia, je l'ai entendu encore hier soir, c'est qu'on peut présumer que certains propos odieux seront tenus. Et donc, on ne va pas, évidemment, on ne peut pas interdire préventivement, mais ça explique parfois le manque de tolérance de certains à l'égard de cette liberté
d'expression. Qu'est-ce que vous voulez dire par odieux ? Il y a légal ou illégal. Odieux, ça peut être pour Jean-Luc Mélenchon ou pour d'autres. Et ben on a, il n'y a pas, comment dire, un détecteur de ce qui peut être odieux. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais vous avez raison.
Vous avez raison, Sonia. Pour certains... l'odieux n'est pas forcément l'illégal, c'est l'indécent.
Voilà.
Et voilà. Ça, c'est
comme quand vous dites que Yael Braun-Pivet va camper à Tel Aviv. Vous ne tombez pas sous le coup de la loi, forcément, mais évidemment,
oui, certains propos d'Éric Zemmour, que moi j'ai pu trouver odieux, et qui parfois ont donné lieu à des décisions judiciaires.
Tout à fait.
Non, mais ce qui est difficile. Enfin,
sauf quand la justice intervient là, évidemment.
Ce qui est difficile, c'est la limite.
Globalement, odieux.
Ce qui est difficile, c'est de trouver la limite.
Si vous êtes d'accord, puisque c'est l'heure du déjeuner, nous parlerons. Non, ça m'intéresse beaucoup le sujet des tickets restaurants. Oui. Est-ce que, comme certains d'entre nous, vous les utilisez, si vous en avez aussi, pour faire les courses alimentaires?
Si j'en avais, je le ferais.
Thomas.
Moi, je les utilise pour faire.
C'est devenu une habitude. Sauf que on a presque oublié que ce n'est pas la norme et que le gouvernement a prolongé cet état de fait en urgence parce qu'avec la crise du pouvoir d'achat et que là, ça pourrait revenir comme avant. Et non, mais ça, vous me regardez.
Parler de quoi, Sonia?
Le massia vous demande. Bon.
Ticket restaurant. Quel... J'avais pas compris, pardon. J'avais entendu restaurant.
Mais non, mais.
C'est l'heure. Voilà.
C'est l'heure. Monseigneur, c'est l'heure. Beaucoup d'autres sujets. Linda Kebab, policière syndicaliste, va être avec nous. Vous allez voir ce qui se passe. Un menton, colère des habitants. Encore un refus d'obtempérer. Aussi, nous serons sur ces différents sujets. Et puis, la police. Non, ça, je l'ai dit pour menton réquisitionné pour les JO. Ça va vous faire plaisir. Et vous allez voir pour les Jeux Olympiques, 1000 profils de fichiers S radicalisés surveillés. Mais après les JO, on va les laisser tranquilles. Non, on va en parler. À tout de suite. Merci d'être avec nous, Midi News. La suite, nous parlerons de ce qui se passe à Menton, colère et incompréhension des habitants, alors que des effectifs chargés de surveiller la frontière franco-italienne devraient être réaffectés à la sécurité des Jeux Olympiques. Et puis malheureusement, un autre refus d'obtempérer. Hier, on en parlait déjà. Nous serons pour tous ces sujets avec Linda Kebab, que je salue. Bonjour à vous, Linda Kebab. Merci d'être avec nous, policière, secrétaire nationale d'Unité Police, auteur également de ce livre « Gardienne de la paix et de la révolte ». On en parle juste après le journal. Rebonjour à vous, cher Mickaël.
Rebonjour Sophia, bonjour à tous. Les opérations PlaceNet XXL au menu du Conseil des ministres. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, tout à l'heure, est revenu sur l'importante opération menée dans la cité Castellane à Marseille pour le plus grand bonheur des habitants, selon lui. Écoutez.
Et puis, allez voir les gens de la Castellane, rencontrez-les. Moi, je l'ai fait. Ils disent merci d'être venus parce que vous nous débarrassez de gens qui nous pourrissent la vie au quotidien. Et je voudrais, pardon de le dire, je sais que c'est pas très à la mode, mais que s'il n'y a pas de consommateurs, même dans le cadre, dit-on, festif, il n'y a pas de trafiquants. Et chaque fois qu'on se fume un petit pétard le week-end, on devrait penser aux gens de la Castellane qui n'en peuvent plus d'être pourris au quotidien par les trafiquants.
Et sur le sujet de l'autorité, Gabriel Attal se rendra demain à Viry-Châtillon à l'occasion des 100 premiers jours, de ces 100 premiers jours à Matignon. Cette commune de l'Essonne a été endeuillée récemment par la mort de Chemseddine. Dans l'actualité également, 5 blessés et 1 grave dans une fusillade à Nîmes. Les 3 tireurs ont pris la fuite et sont toujours activement recherchés. Les faits se sont déroulés hier vers 20h au chemin bas d'Avignon, un quartier en proie au trafic de drogue, précise Bruno Bartocchetti, le secrétaire national du syndicat de police Unité.
Le quartier Chemin Bas d'Avignon est un quartier tristement connu pour des tentatives de règlement de compte. Vous savez, on est toujours sur cette pieuvre, très certainement, de la DZ Mafia qui a sa place, comme on le sait à Marseille, mais qui continue à s'étendre et à vouloir prendre des quartiers dans des départements voisins. Ce n'est pas nouveau, hein, ce n'est pas que depuis quelques semaines qu'on déplore des règlements de compte ou des tentatives de règlements de compte à Nîmes. Ça dure depuis des années.
Les vols de portables se multiplient. Dans certains cas, les voleurs se servent directement dans les poches ou dans les sacs. Dans d'autres, ils s'en prennent physiquement à leurs victimes. Face à ce risque de plus en plus élevé, vous êtes nombreux à adapter votre comportement. Reportage à Bordeaux de Jérôme Rampenou.
Où que l'on regarde dans la rue, le portable est omniprésent et se promener avec à la main peut comporter des risques. Et même lorsqu'il est dans votre poche, il peut disparaître.
Je me suis fait voler mon téléphone il y a 15 jours ici dans le tram, voilà, en descendant du tram. Je suis monté deux stations avant, j'ai validé avec l'application TBM mon billet. C'est pas pour autant que c'est de l'insécurité, que c'est grave, etc. Pas du tout, j'ai aucun ressentiment par rapport à ça.
Beaucoup d'utilisateurs ont conscience du risque et font attention à ne pas tenter les voleurs à la tire.
Je suis obligé de faire gaffe parce qu'en réalité on ne sait jamais quand est-ce qu'ils peuvent réellement prendre nos téléphones de nos mains en fait.
Non, je fais attention à le mettre sur la poche là, jamais dans la poche du manteau, et je le tiens bien, bien fermement. Quand je suis à la main, il y a des quartiers à Bordeaux, par exemple, que j'évite.
Dans le sac ou dans la main, voilà.
La poche arrière, c'est le...
Non, ça c'est le pire. Surtout quand t'as pas de coque, ça glisse facilement, donc non, à éviter.
Certains n'hésitent plus à utiliser la violence, comme le mois dernier, un jeune homme a été aspergé d'ammoniac pour lui prendre son téléphone à Bordeaux.
Les vols et les agressions sont de plus en plus courantes, notamment sur Bordeaux par rapport à il y a une dizaine d'années où c'était encore la belle endormie. Ça a beaucoup évolué, il y en a beaucoup plus de vols avec violence et d'agressions qu'auparavant. Ouais.
Chaque jour, une dizaine de plaintes pour vols sont enregistrées au commissariat de Bordeaux.
La sécurité qui reste à 100 jours des Jeux Olympiques, un sujet central pour les Français. Et concernant la menace terroriste, Amélie Oudéa-Castéra assure que le plan central pour la cérémonie d'ouverture reste la scène. Elle précise toutefois que si la menace venait à s'intensifier, le scénario de repli serait à revoir. Alors, êtes-vous inquiet par cette organisation? On est allé vous poser la question.
Alors de l'excitation, non, désolé, hein, c'est certainement pas la bonne réponse, mais moi j'ai aucune excitation vis-à-vis des JO, mais j'ai beaucoup d'inquiétude, ouais, à plein de niveaux.
Je pense que la ville de Paris en elle-même, je pense pas qu'elle soit prête. En fait, il y a des choses qu'il aurait fallu prévoir plus tôt, comme je pense au chantier de la Tour Montparnasse. En fait, on a promis plein de trucs, je me rappelle même qu'on avait promis que les transports seraient gratuits, et y a rien qui est fait, et... Donc je pense pas qu'on soit prêt, non.
Au moment que les syndicats ne font pas grève, quoi. Mais bon, je crois que ça devrait aller, quoi. Mais honnêtement, c'est vrai, je suis enthousiaste et tout, ça devrait aller, quoi.
Et voilà, Sonia, ce qu'il fallait donc retenir de l'actualité à 13h sur CNews. À tout à l'heure.
Merci, Mickaël. On va poursuivre justement la question qui a été posée avec vous, mais je connais en grande partie vos réponses. On interrogera surtout de l'autre côté ceux qui assurent notre sécurité avec Linda Kebab. Mais tout d'abord, je voudrais évoquer ce qui se passe à Menton. Menton, pour ceux qui ne connaissent pas, en tout cas, c'est à la frontière évidemment franco-italienne. C'est l'un des passages pour l'immigration et véritablement. Tous ceux qui connaissent la ville, qui y habitent, qui y travaillent, vous disent que la ville a changé véritablement, complètement, en quelques années. Et là, il y a une colère vive qui s'exprime, une incompréhension aussi des habitants. Pourquoi ? Parce qu'une partie des effectifs chargés, justement, de surveiller la frontière devrait gonfler les rangs, justement, des forces de sécurité pour les Jeux Olympiques. Notre équipe, avec Sarah Fenzari et Franck Trivio, nous résume tout cela. Et puis, on réagit avec vous, Linda Kebab, juste après.
En pleine campagne européenne, la droite se saisit de la situation migratoire à la frontière franco-italienne. Dans un communiqué, le président des Républicains demande des explications au ministère de l'Intérieur concernant le retrait de forces mobiles qui assurent la lutte contre l'immigration clandestine. Un allègement des effectifs qui inquiète les riverains.
Je ne trouve pas ça normal, puisqu'il faut quand même surveiller les frontières sans problème.
Même qu'il y a les militaires qui font, comme on dit, qui surveillent, mais ce n'est pas assez. Des fois, la nuit, il y en a qui y passaient, je vous parle, il y a à peu près 2-3 mois.
La raison de ce retrait, les Jeux Olympiques qui vont mobiliser les forces de l'ordre à partir du 1er mai, la pire période, selon les syndicats.
Les beaux jours permettent une mer plus calme pour venir en bateau ou pour franchir les montagnes également, hein, il y a moins de neige. Malheureusement, on a un afflux de migrants un peu plus important dans ces périodes-là.
Pourtant, le préfet l'assure, le nombre de contrôles restera le même.
Il n'y aura pas dans le 06, dans le département des Alpes-Maritimes et ailleurs d'ailleurs, d'allègement des contrôles. On a beaucoup de réservistes de la PAF qui vont arriver de la zone. Nous avons également des réservistes de la gendarmerie.
Pour rappel, à Menton, plus de 700 policiers et gendarmes sont présents sur place afin de renforcer les contrôles à la frontière franco-italienne.
Bien. Et les services du ministre de l'Intérieur essayent en tous les cas de rassurer en affirmant qu'il n'y aura pas de déplacement des effectifs. Toutefois, semble-t-il, ça a été évoqué, c'est une initiative, elle n'est pas complètement démentie. Linda Kebab, bon, ce n'est pas extensible, il n'y a pas des forces qui pourraient arriver sans qu'on le sache. Est-ce que vous comprenez aussi la colère et cette incompréhension des habitants ?
On doit la comprendre, comprendre la colère, l'inquiétude des habitants, comprendre aussi l'inquiétude des policiers qui sont affectés sur les départements limitrophes, qui toute l'année travaillent notamment à la lutte contre l'immigration clandestine. Et puis d'un coup, d'un seul, on leur dit, alors qu'on est sur une période où il y a un afflux particulier de personnes qui tentent de traverser la frontière de manière illégale, leur dire bah, vous n'allez pas vous occuper de votre mission première et vous allez monter sur une grande ville, en particulier la capitale, pour les JO. Donc c'est de l'inquiétude, de la colère qu'on peut tout à fait comprendre. Et puis de toute manière, sont des faits qui ne sont pas démentis par le préfet Moutou. Hein. Alors j'entends qu'il est la parole du gouvernement. Non, pardon, on dit la parole de l'État concernant un préfet, mais néanmoins qui ne dément pas les faits, qui parle juste d'une augmentation, enfin en tout cas d'un maintien du nombre de contrôles. En parlant des réservistes, juste une petite nuance pour mettre en place des réservistes, en particulier dans la police, même si la gendarmerie envisage progressivement de laisser les réservistes seuls, il faut des titulaires avec eux, il faut des policiers actifs. Et donc, si on n'a pas de policiers titulaires avec eux, pas de réservistes.
C'est pour ça que je me suis permis de mettre un point d'interrogation, parce que comme les services du ministère veulent être rassurants, mais effectivement, vous avez raison, le préfet, au contraire, hein, réagit, est en réaction et n'a pas démenti. Surtout ce préfet qui est connu pour assumer un discours d'autorité.
Il est parfait.
Il faut rappeler le défi sécuritaire, c'est 35 000 pendant les JO, forces de l'ordre, gendarmes et policiers, plus 10 000 sur la cérémonie d'ouverture, 18 000 militaires mobilisés en plus. Il y aura donc sur cette période-là une concentration inédite sur un défi sécuritaire qui peut bien évidemment nous désarmer au sens propre dans d'autres parties du territoire.
Pas seulement sur la zone limitrophe, mais aussi sur le littoral. C'est important de le préciser. Beaucoup de nos concitoyens fréquentent le littoral en été. Eh bien, il faut le savoir que toutes les années, normalement, on a un renfort saisonnier de policiers de régions qui sont un peu plus vides en été sur ces régions du littoral. Eh bien, cette année, ce sera tout l'inverse.
Je peux poser une question ?
Oui, allez-y.
Parce que, comme l'a dit Sonia, on ne va pas, si vous voulez, recruter pour 3 mois des policiers. On ne peut pas, des intérimaires dans les restaurants, si vous voulez. On ne va pas les recruter pour 3 mois. Et on ne va pas non plus dimensionner la police, si vous voulez, aux Jeux Olympiques. Donc, comment on fait, d'après vous, comment on devrait faire ? Je sais qu'on vous a déjà piqué toutes vos vacances. Oui. Il n'y a pas de vacances qui est quand même...
Ce qui serait plus grave, c'est qu'on leur pique aussi la prime pour les Jeux Olympiques. Et là, il y a un vrai sujet quand même.
Oui, il y a un sujet parce que la mobilisation des policiers, en particulier sur cette fonction-là de la sécurité sur les sites olympiques, suppose que des policiers vont devoir se réorganiser cet été. Pas de congé, vous l'avez dit il y a quelques instants, mais surtout une mobilisation des policiers de région vers la capitale ou en tout cas vers les grands sites. Sauf que la contrepartie, c'est une prime que notre syndicat a réussi à négocier dès janvier avec un engagement du ministre signé et écrit. Et c'est vrai qu'à l'heure où on est en train de nous parler de politique d'austérité, de ministères qui vont devoir travailler sur leurs fonds propres, eh ben, il y a lieu de s'inquiéter sur le fait que des policiers dont une partie de la prime allait être mobilisée, notamment dans la réorganisation de la famille, la garde des enfants, etc., ben, est-ce que cette prime sera vraiment assurée? Donc, nous, on entend le fait qu'on nous parle de mobilisation des policiers sur les sites olympiques, alors même qu'aujourd'hui, les directions sont incapables de donner des chiffres. C'est-à-dire que si vous prenez un commissariat, quel qu'il soit en région, oui, il est incapable de dire combien de policiers va devoir envoyer. Donc aujourd'hui, on en est à un point où les volontaires dans la police sont en réalité des désignés d'office. Donc on va envoyer des policiers désignés d'office. On est presque aux portes des travaux forcés. J'exagère à peine parce qu'on dit à des policiers, vous ne prenez pas de congé, mais en plus vous allez travailler avec un cycle qui va être extrêmement dense. On parle de travailler sur des longues journées sans repos.
Et avec un contexte de menace très fort.
Vous n'aurez peut-être pas la prime que
mais
vous
Linda Kebab, on n'imagine pas que pour les raisons budgétaires où il faut aller chercher 10, 15 milliards, l'État pourrait revenir sur son engagement pris auprès des forces de l'ordre concernant
possible.
Une prime qui pèse quelques millions d'euros, sûrement quand c'est epsilon.
Bah,
c'est
prime,
le trait de plume.
Cette prime, elle pèse peu. Elle est nécessaire parce qu'elle est aussi un levier de motivation. On est allé la chercher. C'est pas volé.
Bien sûr.
D'autant qu'aujourd'hui, on a quand même une situation, il faut le savoir, qu'il y a deux ans, on a signé un protocole avec le ministère de l'Intérieur qui amenait des évolutions budgétaires que l'on n'a pas encore mis en œuvre aujourd'hui. Parce que, je suis désolée du terme, mais on critique souvent certaines nations dirigées par les militaires. Nous, en France, on est un peu dirigés par les technocrates. D'un peu, vous savez, c'est la dictature de l'administration. Donc vous avez le politique qui donne sa parole, qui s'engage dans un protocole, qui signe des engagements. Et puis deux mois après, vous avez des directeurs centraux, des directeurs généraux, oui, des administrations qui vont sortir tous les moyens pour ne pas sortir le budget. Si on ajoute à cela la promesse de M. le maire de réduire le déficit, aujourd'hui, on est aux portes des JO. Et peut-être que la France n'a pas les moyens de se payer les JO qu'elle va organiser.
Budget, la prime, et puis quand même beaucoup d'incertitudes sur l'organisation et donc la sécurisation. Est-ce qu'on peut faire, ce jour, à l'état actuel, un bilan du plan A, B, C, D jusqu'à Z possible encore, hein, puisque le président de la République a consenti quand même, hein. Et c'est pas rien, c'est-à-dire que la menace est circonstancieuse, qu'il a écouté une partie des renseignements qui disent « Monsieur le Président, et ça a été prouvé, on ne peut pas ne pas imaginer d'autres scénarios. »
C'est vrai qu'on s'y perd un petit peu parce que pendant très longtemps, il n'a jamais été question d'un plan B ou d'un plan C. Et puis désormais, on entend régulièrement le Président de la République, même maintenant la ministre des Jeux Olympiques, commencer à aller vers cette hypothèse d'un plan B. Alors il faut dire aussi à leur décharge que la situation internationale a un peu évolué aussi ces derniers mois, il y a eu un attentat à Moscou, ça ne vous a pas échappé. Donc tout cela est à prendre en considération pour l'organisation de cette cérémonie d'ouverture. Mais c'est vrai qu'on est maintenant à 100 jours des Jeux Olympiques et on ne sait pas véritablement où va se dérouler cette cérémonie d'ouverture. On ne peut pas avoir l'assurance aujourd'hui qu'elle se déroulera comme prévu sur la scène.
Si on devait écouter nos renseignements et les forces de sécurité, oui, c'est vraiment le plan BC, je ne sais pas comment il a voilà, privilégié. Mais la vraie question, moi je la pose chaque jour, là on est à combien de jours d'ailleurs?
100 jours.
Vous connaissez, vous avez fait une croix sur votre agenda.
Oui.
Est-ce que avoir une cérémonie plus restreinte, c'est renoncer, quelque part se soumettre parce qu'il y a une menace islamiste, ou est-ce que au contraire, c'est être pragmatique et lucide et tenir.
J'espère qu'il n'y aura pas de mauvaise polémique si, d'abord, les spécialistes de la sécurité, à commencer par la DGSI, depuis le début, disent que la sécurisation de 6 km de cérémonie d'ouverture sur les bords de Seine est quelque chose, dans le contexte actuel, difficile. Ça a été, bien sûr, aggravé par le Bataclan de Moscou et la situation, l'évolution de la situation au Moyen-Orient. Il y a en fait qu'un plan B, c'est le Trocadéro. Parce que le Stade de France, il y a des épreuves qui démarreront avant la cérémonie d'ouverture. Donc l'atterrissage, y compris au Stade de France, c'est compliqué. Ce qui est réfléchi réellement aujourd'hui en termes de repli, c'est le Trocadéro resserré.
Alors on va continuer à en parler parce qu'il y a une surveillance très très accrue. Hein, j'espère d'ailleurs qu'elle est pérenne, hein, que c'est tout le temps qu'on surveille quand même des profils radicalisés, fichés S et radicalisés. Hein, c'est pas... Pas tous les fichiers S, mais là, ceux-là sont radicalisés. 1000 sur Paris. Donc imaginez, nos renseignements qui sont mobilisés, nos forces de l'ordre qui sont mobilisées, d'ailleurs beaucoup d'autres administrations également. On va en parler. Qu'est-ce que ça demande aussi comme effort, Linda Kebab? Mais tout d'abord, le rappel des titres avec vous, Mickaël.
5 blessés, dont un grave, dans une fusillade hier soir à Nîmes, au chemin bas d'Avignon, un quartier en proie au trafic de drogue. Les trois tireurs ont pris la fuite et sont toujours activement recherchés. Au moins 18 personnes ont été tuées à Oman dans des inondations, dont 9 écoliers. Des inondations meurtrières qui ont frappé les pays du Golfe, à Dubaï notamment. Les rues, les centres commerciaux et l'aéroport sont sous l'eau. Et puis 250 000 nouveaux billets ont été mis en vente ce matin pour les Jeux Olympiques, dont la moitié à moins de 100 euros. Tous les sports sont concernés, précisent les organisateurs, mais certains sont en nombre très limité.
Alors voilà pour le côté sport, le côté billet. Pour le côté sécurité et même menace terroriste, des fichiers S pour radicalisation particulièrement surveillés dans la capitale avant les Jeux. Le ministère de l'Intérieur d'ailleurs a communiqué sur ce millier de profils et d'individus. On voit tout cela avec Camille Guédon, on en parle juste après.
À moins de 100 jours de la cérémonie d'ouverture des JO, Gérald Darmanin a donné le cap sur les mesures de sécurité à venir. Alors qu'Emmanuel Macron a évoqué des plans B et C sur le Trocadéro et au Stade de France, le ministre de l'Intérieur a donné ses instructions pour le plan initial prévu sur la Seine. Selon les informations du Parisien, pour lutter contre la menace terroriste qui pèse sur la France, environ 1000 personnes sont actuellement surveillées pour radicalisation à Paris et sa petite couronne. Il a donné l'ordre de continuer le travail préventif afin de pouvoir analyser les personnes radicalisées qui ne seraient pas encore identifiées. Eau, gaz, internet, transport. L'ordre du jour de l'autre réunion portait sur la sécurisation des réseaux de communication. Les résultats de 100 audits ont permis de renforcer la sécurisation physique de plusieurs sites sensibles comme les locaux de RTE, de la SNCF, de la RATP et d'Orange. Le ministre de l'Intérieur a aussi demandé que des équipes soient prépositionnées dans différents tunnels d'accès à ces sites le soir de la cérémonie d'ouverture. Les catacombes ainsi que les égouts feront également l'objet d'une surveillance accrue.
Je ne sais pas si on se rend compte, alors vous évidemment oui, Linda Keba, mais si on se rend compte, nous, le grand public, de ce qu'il faudra sécuriser. C'est titanesque.
Bah, on sécurise les lieux, on sécurise aussi par la surveillance. Vous avez parlé là des 1000 radicalisés, alors toute l'année évidemment on les surveille, hein, mais là avec une attention accrue, en particulier sur les profils qui potentiellement peuvent passer à l'acte. Pas seulement dans la tuerie dite islamiste, mais également dans tout ce qui peut être action... environnementaliste par exemple ou anticapitaliste, alors dans une moindre mesure parce que vous doutez bien qu'elles sont moins dangereuses quand même pour nos concitoyens. Néanmoins, ça reste quand même une charge de travail très importante. Il y a 195 000 profils qui ont été criblés, il y a une ambition d'un million, il y a près de 200 profils qui ont été écartés, tout domaine confondu, donc il reste encore beaucoup de travail. Faut pas du tout, je veux pas du tout être dans l'anxiogène ou alerté. Néanmoins, c'est pas gagné.
Si la volonté terroriste était, avant le massacre dont il rêve, était de créer une angoisse permanente et une atmosphère de sécurité absolue, ils ont gagné. Mais je dis pas que tout ça est inutile, mais il est clair que de l'extérieur, ces malfaisants doivent se dire... On a réussi à faire croire.
Depuis des années, nos lieux de culte sont surveillés, sont bunkerisés.
C'est le principe du terrorisme, c'est voilà. Semer la terreur.
C'est la terreur.
Moi, je partage Elisabeth avec Lévy. Sonia, c'est pour ça que je vais vous poser la question. Moi, je partage un peu avec Sonia maintenant un sentiment, si vous voulez, de défaite si on devait déplacer cette cérémonie. C'était peut-être absurde de se lancer là-dedans, mais puisqu'on l'a décidé, si vous voulez, ce serait une reculade. Alors dites-moi, Charline Dakeba, est-ce que nos forces de l'ordre sont capables de sécuriser cette cérémonie, sachant évidemment que risque zéro, ça n'existe pas.
Alors, ne voyez pas ça comme une réponse corporatiste, mais je pense que les collègues sont capables de sécuriser. En réalité, c'est moins la capacité des policiers à sécuriser que celle de l'État et des autorités à anticiper. Anticipé notamment par la capacité à donner aux policiers les moyens de surveiller, de filtrer toutes les personnes qui seront à proximité des sites et en tout cas le jour de la cérémonie sur place. Et puis aussi les moyens matériels, parce que vous pouvez sécuriser en mettant autant de policiers que vous voulez. Si vous n'avez pas les moyens, notamment des barrières anti-agression...
Mais si le QR code ne marche pas, ça c'est le cauchemar.
Par exemple, vous ne serez pas à Paris.
On va prendre un exemple.
Ne posez pas des questions qui vous concernent pas.
On a une finale il y a un peu moins de 2 ans au Stade de France qui nous a rappeler que le problème, ce n'était pas l'exercice des forces de l'ordre, c'était un problème d'organisation. Pour peu que vous ayez une grève de RER qui fait se déporter l'ensemble des personnes sur un trajet différent de celui que prévu, que vous avez un effet entonnoir, que la foule se retrouve figée parce qu'en incapacité d'avancer, vous savez, dans la question du service d'ordre, de la sécurité de manière générale, Une des craintes majeures, c'est le fait d'avoir une foule qui est fixée. Voilà. La fluidité, c'est important. Et ça, malheureusement, ce n'est pas du ressort des forces de l'ordre.
Là, c'est l'angoisse, vraiment, c'est
un sujet. Oui, c'est un sujet majeur. Tous les grands, c'est l'incapacité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a en amont des instructions demandant aux Parisiens de ne pas emprunter les transports, d'éviter certains quartiers. C'est juste pour des raisons de sécurité. Hein. Ce n'est pas une incapacité des trottoirs à avoir autant de pieds posés dessus. C'est vraiment une incapacité à pouvoir dire que la foule sera fluide ce jour-là et donc en sécurité. Et ça,
donc en fait, pour les Parisiens,
à tous ceux qui peuvent partir,
voilà,
c'est liberté.
C'est ça. On ne vous retient pas.
On ne coule pas sous les demandes de touristes, a priori, ou alors quelque chose m'a échappé, mais je crois que pour l'instant, l'événement n'attire pas les foules d'autres pays. Peut-être que ça facilitera le travail des forces de l'ordre d'avoir à gérer finalement que les Parisiens et les détenteurs.
Même, regardez ce qui est surveillé, c'est-à-dire que si vous devez louer Airbnb du côté de. On va dire le champ de Mars, etc., élargi, vous ne pouvez pas si vous êtes fiché S, etc. Bon, je vais dire heureusement quand même, oui, parce que... Non, mais il faut penser à énormément de choses. Et... Les catacombes,
ah, mais ils ont des
les tunnels...
Cerveaux, tous ces technocrates dont parlait
Linda Kebab, est-ce que ces 1000 radicalisés étaient surveillés avant?
Non, mais bien évidemment.
Oui, si ils sont désignés comme radicalisés, c'est juste une hausse de leur surveillance.
Enfin,
c'est des gens qui sont connus, qui sont connus pour différentes thématiques, hein, parce que la radicalité, d'accord, évidemment, celle qu'on connaît le plus, c'est celle qui a une velléité djihadiste, mais il y a aussi l'ultra-gauche, l'ultra-droite, les environnementalistes...
Vous me rassurez, je croyais que c'était uniquement un effet bénéfique des JO.
Non, non, et puis de toute manière, on découvre des fichiers S en permanence. Je veux dire, les créations de fiches S, c'est-à-dire qui sont, dont l'État assure une surveillance accrue, pour des questions de sûreté de l'État, il y en a de manière très régulière qui émanent. Donc, il y en a autant qui en sortent au bout d'un certain nombre.
Ce qui est régulier, malheureusement, c'est ce dont on va parler dans quelques instants. Je voudrais insister sur ça, parce qu'hier, on avait montré ces images à Shilty Game. Vraiment, c'est choquant. On voit avec ce... Je ne sais même plus s'il faut appeler ça un refus d'obtempérer. Parce qu'il y a tellement une volonté... Alors, je ne veux pas colorier, parce que la justice, ou en tous les cas, faire un procès d'intention...
De blesser, au moins.
Ben, en tous les cas, ils foncent sur le policier, encore un refus d'obtempérer. Alors, on écoutera votre analyse. Et surtout, mais que faire maintenant? Ça devient régulier, quotidien. Est-ce que c'est une question de justice? Évidemment, comme si on reprend tout ce qu'a dit Maurice Berger, premier délit, première sanction. Ça paraît simple à énoncer, et rapidement.
Mais c'est sûr, il faudrait envisager systématiquement pour ces refus d'obtempérer, qui sont en réalité, de mon point de vue, des tentatives d'homicide, il faudrait au moins parler de mise en danger de la vie d'autrui.
Ces tentatives d'homicide, moi j'aimerais bien savoir près de Strasbourg, quelle peine aura ce jeune délinquant dont on va voir les images.
Alors là, c'est autre chose. Il faudra s'interroger sur la sévérité de certains magistrats.
Une courte pause et on se retrouve sur ce sujet. Dans l'actualité, des refus d'obtempérer avec des cas graves, c'est-à-dire que ce sont des policiers qui sont ciblés, blessés. C'est le cas à Pau avec cet agent de la police nationale dont on va parler, des Pyrénées-Atlantiques, qui s'est cassé les pieds et l'individu, le délinquant, a foncé sur ce policier. Ce fut le cas hier également près de Strasbourg. Vous allez voir ces images impressionnantes, édifiantes. Et j'en parlais tout à l'heure avec Linda Kebab pendant la pause. Alors, on parle d'un sujet sérieux. Je précise que pour la prononciation sur les villes en Alsace, j'ai beaucoup de téléspectateurs. Alors, j'ai une téléspectatrice qui m'aide. Elle me dit qu'il faut dire Shilty Game.
Shilty Game.
Gaim. Ah, Gaim. Ben voilà, il faut juste de me le dire. Après les titres, on en parle.
Je n'ose pas.
Mickaël, prenez la parole parce qu'ils ne vont pas me laisser.
C'était tellement bien, à vous. Sonia, votre prononciation.
Les titres.
Au moins 13 personnes tuées dans une frappe russe à Tchernigiv, au nord de l'Ukraine. Plus de 60 blessés sont à déplorer. Volodymyr Zelensky a mis en cause une fois de plus, je cite, le manque d'aide de l'Occident. L'Union européenne et les États-Unis préparent de nouvelles sanctions contre l'Iran. Les alliés d'Israël ne veulent pas d'une guerre étendue avec Téhéran, mais ne comptent pas non plus laisser l'attaque des 13 et 14 avril sans réponse. Et puis je rêve de gagner la Ligue des Champions avec Paris. Les mots de Kylian Mbappé après l'écrasante victoire du PSG hier face au Barça. L'attaquant star a déclaré sa flamme au club parisien qui affrontera le Borussia Dortmund en demi-finale aller le 30 avril.
Alors avant de parler de ce refus d'obtempérer à Pau, revenons dans la ville de Shilty Game, près de Strasbourg, avec ces images édifiantes pour plein de raisons. Vous allez voir ce jeune délinquant qui fonce sur le policier. Et regardez le contexte, vous avez des jeunes enfants qui doivent traverser la rue. Vous avez regardé la maman avec la poussette. Cette image de l'amant de pillard, Linda Kebab, parce que voilà, voilà ce que c'est l'énorme danger quand certains disent oui, mais vous parlez trop de ces refus d'obtempérer, etc. Voilà la réalité.
C'est incroyable.
Policier municipal, hein, je ne sais pas s'il était, bon, de toute façon, armé ou pas dans une telle circonstance. Je crois qu'il s'en est sorti sans trop, malgré tout, de blessures. Celui de Pau a le pied cassé. On pense évidemment. Regardez la maman, elle est à quelques mètres. Imaginez. Non, mais je ne veux même pas imaginer. Imaginez le pire.
Bien sûr. C'est grave. Et on continue à victimiser les auteurs de ces refus d'obtempérer et à diaboliser la police. Mais ces gens sont des dangers publics. On est près d'un établissement scolaire. Il y a une maman avec une poussette. On a failli aller jusqu'au drame quand même.
Et c'est-à-dire que quand on voit le nombre d'interpellations auxquelles procède la police et le peu de refus d'obtempérer que des malfaisants opèrent, c'est un miracle.
Alors Linda Kebab, on a envie de vous entendre, vous, évidemment, ça vous concerne au premier chef. D'abord, ça met en péril vos vies, celles de vos collègues et aussi des citoyens. Maintenant, quel sursaut? On en parle depuis. C'est vraiment une litanie, là. C'est du quotidien, en tout cas, du régulier. Vous, qu'est-ce que vous attendez en particulier?
Je ne sais pas si on est encore en mesure d'attendre quoi que ce soit. Là, actuellement, le ministre de la Justice parle de prononcer, par exemple, de faire des propositions de loi ou des projets de loi qui durciraient, par exemple, les sanctions à l'égard des mineurs, parce que souvent les personnes qui font des refus de tempérer sont dans des parcours délinquants depuis longtemps. Hein. C'est pas en général quand on en arrive à faire. C'est pas un refus de tempérer. C'est au mieux des violences volontaires. Au pire, voilà. C'est certainement plus ça une tentative d'homicide.
Voilà, il faut.
Et là encore, on est sur un deux roues, donc les dégâts sont, on va dire, moindres. Mais avec une voiture, je vous laisse imaginer.
Ah, il aurait touché la maman et tout le monde là.
Hein. Mais vous savez ce qu'on aurait dit? C'est un impondérable. Moi, le drame que je constate, c'est qu'on a 75 refus d'obtempérer tous les jours. Je viens clairement en opposition à tous ceux qui disent que les policiers tirent sur des refus d'obtempérer. C'est la preuve que non. Il y a 75 refus d'obtempérer tous les jours. Donc ceux qui vous diront que les policiers tirent sur des refus d'obtempérer, c'est faux. On tire lorsqu'il y a le sentiment de légitime défense face à des violences volontaires aggravées ou une tentative d'homicide, voire un homicide. Parce que parfois, des policiers et des gendarmes meurent dans ces conditions. Donc, on a aujourd'hui des refus d'obtempérer qui se font dans un contexte de violence incroyable, avec une totale indécence, totalement décomplexée de ces auteurs qui foncent sur des policiers, mais pas seulement. Au quotidien, ils foncent aussi sur des gens. On n'en parle pas toujours, ce n'est pas tout le temps médiatisé, mais moi qui ai les remontées de terrain avec nombre des représentants du personnel, il y a des personnes qui meurent sous les roues de personnes qui font des refus d'obtempérer. Des mères de famille, des familles décimées, des écoliers qui sortent de l'école, des personnes qui vont travailler, des personnes âgées. Et moi, ce que je trouve dramatique, c'est qu'aujourd'hui, on a encore, lorsqu'un policier fait usage de son arme dans le cadre, non pas d'un refus d'obtempérer, mais d'un refus d'obtempérer suivi d'une tentative d'homicide ou de violence volontaire aggravée avec une arme. Et d'avoir des personnes qui, aujourd'hui, notamment des responsables politiques, dire les policiers tirent sur des refus d'obtempérer, je trouve ça dramatique. Parce que cette dame dans la poussette, je vous le donne en mille, si elle avait été percutée, même avec un deux roues, je ne donne pas cher de son enfant.
Mon Dieu.
Disons les choses.
Bien sûr, et aussi pour le. Voilà,
mais 75 refus d'obtempérer par jour, dont une majeure partie exercée avec des violences contre les policiers, les gendarmes et parfois les personnes qui malheureusement passaient par là.
Le réveil, c'est quand. Cette image, elle est. Vraiment, regardez, c'est ça. C'est ça, des violences volontaires, et c'est ça, le refus d'obtempérer. L'expression devient banale, c'est ça ce qui me fait peur, moi, c'est qu'on s'habitue à tout ça.
Bien sûr, et jamais on ne s'interroge sur les raisons de ces refus d'obtempérer. La plupart du temps, je dirais 9 fois sur 10, ce sont des personnes qui fuient la police, qui ne veulent pas se laisser interpeller et qui se trouvent en état d'infraction. Et deuxième élément, on ne changera jamais cette tradition perverse de la présomption de culpabilité à l'encontre de la police si on ne décide pas d'un coup, par un décret législatif, si j'ose dire, que ces refus d'obtempérer mettent la police en état de légitime défense absolue et que c'est celui qui l'accomplit qui doit être présumé coupable. Il y en a. Je trouve qu'il y a une espèce de défi au bon sens, à l'équité et à la justice.
Il y a aussi autre. Comment on va recruter des femmes et des hommes demain qui, véritablement, là, d'accord, il y a la notion de danger est au cœur de votre mission, mais quand même, du quotidien. pour certainement un rien dans le sens où parfois, là, c'est certainement un contrôle, tout simplement. Comment vous pouvez imaginer que demain, des femmes et des hommes jeunes aient envie quand même de rentrer dans le corps de la police, de la gendarmerie, de la police municipale, nationale
De devenir prof.
D'accord.
Non, mais il n'y aurait qu'une manière de le faire, Sonia. C'est au-delà des hommages formels qu'on rend à la police, concrètement la défendre en permanence, à chaque fois qu'elle est irréprochable, ce qui est dans le cas la plupart du temps.
Dans ce contexte-là, qui est assez symptomatique, on a un deux-roues, visiblement une motocross, donc ce n'est pas homologué pour aller sur la voie publique. C'est typiquement le genre d'achat qui est fait par des personnes qui veulent utiliser leur motocross sur la voie publique pour défier les forces de l'ordre, pour, entre guillemets, kiffer la vitesse au détriment de la vie des usagers. Pas de plaque d'immatriculation, évidemment. Parfois volé aussi, parfois avec de la détention de stup, voire de la conso. Et donc, c'est tout simplement des personnes qui sont sur un parcours délinquant qui datent, qui n'ont absolument aucune... Enfin, qui sont pas du tout inhibés, enfin, qui sont complètement désinhibés face à la délinquance et à la criminalité. Vous parliez tout à l'heure de ce qu'on pourrait faire. Il y a un sujet, c'est le principe de rupture du parcours délinquant chez les très jeunes. Aujourd'hui, et sous le gouvernement actuel, il y a une décision qui a été faite il y a quelques mois, c'est de mettre en place une césure pour les mineurs. C'est-à-dire que désormais, quand un mineur est interpellé, reconnu comme coupable par la justice, il n'est pas sanctionné. C'est-à-dire qu'en fait, vous dites à un enfant, ou un ado en l'occurrence, tu as fait une bêtise, reviens dans 9 mois, je te donnerai ta punition. C'est le cas aujourd'hui en France. Sauf que, résultat, je vais vous donner un exemple tout bête. L'année dernière, un policier a été percuté et traîné. Il est passé à ça de la mort, à Nantes, une voiture volée avec un jeune de 16 ans qui percute donc ce policier et manque de le tuer. Un policier qui aujourd'hui a encore des séquelles. 35 heures de travaux pour le jeune, le criminel en l'occurrence. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en réalité, on manque d'un choc
De sanctions
judiciaires. Vous savez, on a réfléchi à une proposition... avec un think tank où j'exerce, ou en tout cas où je réfléchis avec d'autres personnalités issues de la sécurité et de la justice, et on a réfléchi sur le choc carcéral. Très tôt, très jeune. Vous savez, un choc carcéral de très très courte durée, bien comme sûr. Jamais on l'a initié en France,
dans des pays
une semaine, exactement. Deux semaines, désociabilise pas, qui ne déscolarise pas, et qui vient en tout cas être un sas, peut-être de tentative de réinsertion, d'appropriation de l'acte de délinquance et en fait en tout cas de reconnaissance chez le plus jeune. Sauf qu'aujourd'hui, évidemment, on a une fin de non-recevoir idéologique en France où on nous dit on ne peut pas mettre en place ce type de mesure. Sauf que ce type de mesure, tant qu'elle ne sera pas mise en place, je vous le dis sincèrement, on continuera à en parler. Je vous donne rendez-vous dans un an, Madame Mabrouk, et on en reparlera.
Malheureusement, et avec des blessés, voire pire, évidemment. On va continuer à en parler. Cette information est importante politiquement. Pourquoi ? D'abord, c'était notre sujet d'ouverture et je pense qu'elle va faire beaucoup réagir. Et je pense que c'est un vrai sujet. On apprend à l'instant que l'Université de Lille interdit la conférence avec Jean-Luc Mélenchon demain, donc au sujet de la Palestine. Je vous rappelle l'affiche. Jean-Luc Mélenchon, Rima Hassan, avec le slogan, le logo Free Palestine, qui nie l'existence d'Israël. Mais ici même, nous étions tombés d'accord pour dire il faut quand même que ce genre de réunion puisse se tenir et puis on juge après. Eh bien, c'est l'Université de Lille qui a pris cette disposition et qui interdit la conférence de Jean-Luc Mélenchon.
C'est une catastrophe. Moi, je dirais...
À ce point
Pour moi, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que vous allez les voir se draper dans leur statut victimaire. Ils vont nous dire qu'on les baïonne, etc. Parce que nous avons aussi souvent combattu tous ces groupes de gauche qui voulaient empêcher les autres de parler. Il faut le faire pour tout le monde. Et c'est une catastrophe pour
Je vais donner les informations parce que là, on a plus de détails sur les raisons, en tous les cas, la motivation de cette interdiction. Puis je vais laisser Thomas nous donner le contexte. Donc les conditions ne sont plus réunies pour garantir la sérénité des débats en raison de la montée préoccupante des tensions internationales après l'escalade militaire intervenue les 13 et 14 avril au Moyen-Orient. C'est ce que dit l'université dans un communiqué qui ajoute « La conférence était organisée par une association étudiante pro-palestinienne Libre Palestine ». Donc des questions de sérénité, donc de sécurité également, qui sont mises en avant, Thomas.
Oui, c'est pour justifier le fait que la présidence de l'université a d'abord autorisé cette réunion, c'était en fin de semaine dernière, et pour justifier ce changement et cette interdiction, donc, il y a la situation internationale qui est mise en avant. L'université, qui dans un communiqué, rappelle également qu'elle serait restée hermétique aux pressions politiques qui se sont exercées sur ses dirigeants depuis quelques jours, mais nul doute que cette interdiction, cette annulation va être utilisée à des fins politiques à la fois par Jean-Luc Mélenchon et par, la colistière Rimas.
Je scrute la réaction de Jean-Luc Mélenchon qui n'a pas encore réagi sur les réseaux sociaux.
Et donc ça nous fait basculer dans ce que nous discutions tout à l'heure. Donc maintenant, c'est quoi la suite ?
C'est-à-dire que tout à l'heure, on a appris, là, pendant l'émission, que la conférence d'Éric Zemmour avec Nigel Farage allait se tenir. Et donc là, c'est le Conseil d'État belge. Et là, c'est cas très différents. Jean-Luc Mélenchon est interdit de conférence à Lille 3, c'est l'université de Lille 3.
Je voudrais juste ajouter un mot, j'aimerais convaincre. Mais, ici, on est tous convaincus, donc. Mais je pense que les excès de la liberté qui existent, la souffrance de la liberté, c'est qu'on doit entendre des choses qui nous ulcèrent et nous horrifient. Mais ces excès-là sont évidemment infiniment préférables au risque de la censure.
Je vais poser la question à Linda Kebab sur les positions les positions anti-police de la France insoumise. Est-ce que vous, d'ailleurs, dans le débat public, il vaut mieux tenir et combattre ces positions intellectuellement, idéologiquement, avec tous les arguments, que d'interdire ? Qu'est-ce que vous pensez de cela, Linda Kebab, même si c'est très tendu et ça peut mettre en danger parfois une cible sur ces policiers, très souvent ?
Le souci, en général, avec les interdictions, quelles qu'elles soient, nous, ce qu'on constate, c'est que forcément, ça crée des tensions et donc, du coup, des interventions des forces de l'ordre. Pour être très pragmatique.
Juste.
Donc là où vous avez forcément ce type d'actualité, vous allez forcément avoir du coup un sujet sécuritaire parce qu'on sort du champ de la question de la liberté d'expression, du débat public qui en soi ne me regarde pas. Mais à partir du moment où vous avez ce type d'interdiction, quel que soit le groupe qui est interdit, particulièrement, je crois que c'est une enceinte universitaire, c'est oui. Ça. On n'est pas non plus une interdiction publique, grand public. On s'adresse à des personnes initiées au débat, universitaire en tout cas. Je pense que quel que soit le groupe, parfois, la meilleure façon de le combattre, c'est de le laisser s'exprimer devant des initiés pour pouvoir avoir un débat d'opposition.
Parce que l'utilisation politique va être terrible. J'imagine déjà les militants d'extrême gauche nous raconter d'entités sionistes qui auraient en effet censuré cette conférence. Le fait qu'on serait dans un anti-système contre Mélenchon, il va y avoir des procès en islamophobie, vous allez voir. Et je pense ça complètement stupide. Je pense qu'à un moment donné, il faut réfléchir à ce qu'on fait. On est dans un contexte très sensible et donner comme ça du grain à moudre à la France insoumise, alors, moi je trouve ça
stupide,
dévastateur.
Je ne sais pas, parce que la question se pose. Nous sommes quand même, moi je précise que dans le cadre d'université, ça pose question. Comme le dit l'université, il y a un contexte qui est extrêmement tendu, donc des propos, alors que nous sommes à la veille quand même d'une riposte et possiblement d'un conflit avec un embrasement régional. Donc
oui,
aussi,
mais alors
deux
choses l'une, ou alors on décide que l'université n'est plus du tout le lieu pour organiser du débat, de la dispute publique au sens idéologique. J'ai vu que Chenu avait pu aller à Sciences Po, que selon on le sait, dans nos études universitaires, les universités étaient marquées politiquement d'un côté ou de l'autre. Chez moi, à Bordeaux 3, c'était plutôt la gauche. En face, on avait la fac de droit, c'était plutôt à droite, mais c'était culturel. Ou alors on décide que c'est plus du tout possible, ou alors ce que je souhaiterais, c'est possible, mais pour tout le monde, pour tous ceux qui participent au débat démocratique. Ça serait assez simple à décider. Et je suis d'accord avec ce qui a été dit. La décision-là nous amène dans quelque chose derrière qui est compliqué à gérer.
Je distinguerais tout de même en ce qui concerne Jean-Luc Mélenchon. J'ai été indigné lorsqu'il a indiqué que la police tuait, qu'il n'y ait pas eu une initiative de poursuite. On a un état de droit. Il n'est pas utilisé de manière surabondante. Parfois, il serait utile de l'utiliser quand il le mérite. Et il n'est pas normal qu'on laisse passer une phrase pareille au prétexte qu'on craint des retombées pires que la judiciarisation.
Vous me faites penser que je voudrais préciser, parce que, attention, il ne s'agit pas d'interdire, en tout cas l'Université de Lille ne prend pas du tout comme motif qu'il s'agit de la Palestine, parce que là, sinon, part dans une confusion généralisée. Je voudrais insister même pour ceux qui nous regardent, il ne s'agit pas d'interdire. Il est bien sûr qu'il est légitime de parler de la Palestine, qu'il est légitime de parler des civils palestiniens tués. La question n'est pas du tout là et on le fait nous-mêmes à midi, en tous les cas, quasi quotidiennement quand on parle d'Israël, parce qu'on peut tout à fait défendre la position israélienne et s'indigner des morts palestiniens. Mais là, c'est le slogan, c'est le logo Free Palestine, Libre Palestine, qui est connu depuis des années et qui indique qu'on nie l'existence d'Israël.
C'est ça qu'ils ont indiqué dans le...
Non, mais c'est ce que je viens de dire.
Ils ont indiqué des raisons de
la situation internationale.
Non, mais je veux pas comprendre
de sécurité. Mais vous savez, on va certainement entendre à voix haute ou basse que c'est un coup du lobby juif, qu'il y a le bras long, etc. Voilà. C'est certainement le CRIF qui...
Voilà pour l'information donc, de la mi-journée, donc l'Université de Lille 3, qui a interdit cette conférence de Jean-Luc Mélenchon. Demain, ça fera certainement beaucoup réagir les responsables politiques. Merci Linda Kebab.
Merci à vous.
Bon courage, ça nous concerne tous, hein, avec tout ce qui va se passer, ces enjeux, avec la menace, évidemment. Donc merci aussi pour toutes ces forces de sécurité, policiers, femmes et hommes investis et la mission que vous portez, que vous incarnez. Je rappelle le titre de votre ouvrage, lisez-le, il est formidable, gardienne de la paix et de la révolte aussi, parce que les policiers sont des citoyens comme les autres. Et oui, ils sont parfois sur... On les a vus d'ailleurs quand il y avait des face-à-face dans la rue, c'était pour certains sujets comme la retraite.
Et
les gilets jaunes. Oui, les gilets jaunes, effectivement.
Et vive les JO.
Et... Oh non,
et les costumes, et les costumes.
Et vive les costumes.
On va vous donner la veste si vous avez trop
de jours.
C'était qui disait et vive le sport. Gérard Holt, et vive le sport. Merci à vous et à demain avec grand plaisir.
Que 5 jours, Elisabeth. Allez.
Avant l'enfer.